Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Arjuna Andrade, à la réalisation Elisabeth Miro, prise de son Élise Leu.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Premier jour de notre série consacrée à l'économie de la Chine. Une économie qui montre aujourd'hui quelques signes d'essoufflement après 40 ans d'une irrésistible ascension. Cette semaine, nous allons parler des nouvelles voies de la puissance, des ambiguïtés du socialisme de marché et de la difficile conquête de la modernité. Mais d'abord, notre itinérance commence sur les routes de la soie peu avant le début de notre ère. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, la Chine des Han envoie une mission vers les royaumes de l'Ouest. Ainsi s'ouvrent ces routes commerciales qui relieront pendant des siècles la Chine à la Méditerranée, en passant par l'Iran et l'Asie centrale. Des pistes sur lesquelles circulent marchands, diplomates, soldats et religieux, véritables précurseurs de la mondialisation. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons explorer les routes de la soie en compagnie d'Étienne de la Vessière, historien, directeur d'études à l'EHESS, auteur de l'ouvrage Histoire des marchands sogdiens, publié aux éditions de Bocard, en compagnie également de Sophie Rochefort-Guilouet, enseignante en histoire comparée de l'Europe et de l'Asie à Sciences Po Paris. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Mais regardez ces trésors, messire.
D'où viennent donc toutes ces merveilles, Niccolo Polo?
Elles me viennent du bout du monde. C'est un persan qui les a apportées.
Mais je n'ai rien vu de tel quand j'étais en Perse.
De plus loin que la Perse.
Des Indes.
D'un pays encore plus lointain que les Indes orientales, messire. Ces trésors viennent de la Chine, de l'empire de Cathay.
De si loin que ça?
Le plus ancien empire de la Terre et le plus riche. Il faut traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
Sophie Rochefort-Guilouet, Étienne de la Vessière, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre un extrait du film La fabuleuse aventure de Marco Polo de Denis de la Patellière et Noël Howard, sorti en 1965. Les récits du voyageur vénitien et de son père avant lui, Niccolo Polo, ont largement contribué à la construction de ce mythe des routes de la soie. Sophie Rochefort-Guilouet.
Oui, très largement, parce que l'Asie, à ce moment-là, a commencé à se définir comme un lieu inconnu, à la fois mystérieux, sur lequel on pouvait projeter énormément de fantasmes, de richesses, de mystères. Tout ce qui n'était pas, par exemple, dans le monde européen, pouvait peut-être se trouver là. Donc à travers les illustrations, on a vu aussi des créatures fabuleuses. C'est aussi un monde de pierreries, de richesses. On y trouve de l'or, il suffit presque de le ramasser dans les ruisseaux. Et les illustrations du livre du Devisement du Monde, lorsqu'il va être diffusé en Europe, va contribuer parce que ça va devenir une sorte de fascination et d'obsession que cet Orient riche et mystérieux. Et ça va durer très très longtemps ensuite.
Et pour autant, Étienne de la Vessière, ce n'est pas à Marco Polo qu'on doit cette expression « route de la soie ».
Non, pas du tout. Elle était inventée très tardivement au 19e siècle, en 1877, par un géographe allemand qui décrivait l'Asie centrale et les routes allant à la Chine et qui a inventé cette idée d'un grand fil de soie s'étendant des capitales chinoises jusqu'à Constantinople ou Rome et qui une idée qui a fait florès tant elle était parlante.
Et on pense souvent effectivement aux routes de la soie comme des routes qui relient la Chine à l'Occident. Mais ce qu'il faut dire, et cela participe de ces nombreux mythes qui ont été véhiculés sur ces routes commerciales, c'est qu'elles ont aussi permis l'émergence de puissance à travers toute l'Asie centrale. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins, Étienne de la Vessière.
Oui, la route de la soie, fondamentalement, en son point de départ, ce sont des relations diplomatiques entre des grandes puissances en Asie centrale et la Chine. Et au départ, ce n'est pas commercial. C'est un sous-produit d'une diplomatie de la soie envoyé à l'ouest par la Chine pour s'attirer des alliés et non pas pour faire du commerce.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que si le commerce de la soie a pu se développer, c'est qu'il existe depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ une forte tradition de l'échange en Asie centrale, en particulier dans la région de l'actuel Pakistan et de l'Afghanistan.
Voilà, on va avoir des contacts qui sont très, très précoces en fait, entre les différents États à ce moment-là. Et puis, on va se rendre compte aussi que la Chine utilise cette soie pour faire des présents, pour les dots de princesses, on les verra peut-être tout à l'heure, que l'on envoie épouser des souverains du royaume de Wusun ou du royaume de Khotan, le long du désert du Taklamakan. Donc c'est presque une monnaie, en fait, presque une monnaie d'échange. C'est aussi un secret bien gardé. Et grâce à tout cela, on va avoir petit à petit cette intégration. On va aller de plus en plus vers l'Ouest, jusqu'à ce que l'Occident découvre cette soie et ne puisse plus s'en passer, en quelque sorte.
Et dès cette période, le commerce de la soie se développe et il est très fortement encadré, dès ce moment-là, par l'administration chinoise.
Oui, quand on regarde, sous les Han, et qu'on regarde le livre des Han ou le second livre, le Hu Han Shu, on voit que, par exemple, la ville de Xi'an, donc Shanghan à l'époque, une des capitales, la porte d'entrée de la route de la soie, Luoyang étant plus la capitale politique à ce moment-là, on va avoir une organisation des marchés étatiques avec même une architecture de la ville sous forme de carré, avec des lois extrêmement strictes. Et puis, par exemple, des choses qui peuvent aussi nous surprendre, le fait, par exemple, qu'on va autoriser les aristocrates à fabriquer des briques. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est une ville qui est immense pour l'époque, qui va grandir encore plus, et c'est normalement une occupation que ne doivent pas faire les aristocrates, mais il y a un tel besoin qu'on va les autoriser de manière à pouvoir fournir à travers ces fours à briques pour augmenter la ville au fur et à mesure que ces marchés très spécialisés prennent de l'importance.
Vous dites, Sophie Rochefort-Guilloué, que la soie constitue une monnaie notamment pour pouvoir acheter des chevaux. Le cheval va devenir un objet de commerce majeur, Étienne de la Vessière.
Oui, en Chine, traditionnellement, la monnaie, c'est le grain. Ensuite, il y a la monnaie de bronze. Les salaires sont théoriquement versés en grains. Ils sont convertis en sapec de bronze, en petites pièces de monnaie de bronze. Mais la sapec de bronze, ça pèse très très lourd. Et donc, lorsque la Chine va conquérir ces régions pour elle occidentales, en Asie centrale, il va falloir payer cette armée, il va falloir payer ces administrateurs. On ne va pas les payer en tonnes et en tonnes de grains. Et donc, on a par exemple des documents dans lesquels on voit le salaire théorique, 160 kilos de grains, convertis en pièces de bronze, et ensuite versés en rouleaux de soie. Le rouleau de soie, c'est la grosse coupure, c'est le billet de 500 euros. C'est la monnaie qui permet à la Chine de financer son expansion.
Et pourquoi la Chine, à ce moment-là, a-t-elle besoin d'autant de chevaux, Sophie Rochefort-Guilloué?
Alors, en fait, la première ambassade, celle dont on parle, de Zhanxian, qui part à la demande de Han Wudi vers la vallée du Fergana, donc vers l'ouest, il est censé rapporter des chevaux extraordinaires, qu'on appelle les chevaux célestes, qui, dans la tradition chinoise, seraient les descendants de juments qui se seraient unis à des dragons. Donc c'est Ma, le cheval, et Long, le dragon, et ce sont des chevaux d'une rapidité, d'une puissance exceptionnelle. On les voit bien au musée Tianushi ou au musée Guimet, ils sont représentés souvent en terre cuite, glacée par ailleurs. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on a besoin d'une cavalerie contre les Jiangnu, qui sont des populations au nord de la Chine, nomades et qui font des raids au sens propre sur la Chine. Donc il faut pouvoir les contrer et il faut monter cette fameuse cavalerie.
Vous l'avez dit, Sophie Rochefort-Guilloué, la fabrication de la soie, c'est un secret bien gardé en Chine. C'est ce que nous explique l'ethnologue Rini Tang au micro de Laure Adler et Jean-Pierre Milanoff. C'était le 26 décembre 1985 dans les Nuits Magnétiques.
Pendant le temps très très ancien, il n'y a que la Chine qui fabrique la soie et la Chine garde son secret de fabrication de la soie. Et pendant longtemps, on croyait que c'est une matière végétale. Et petit à petit, il y a le secret qui est livré. Et dans le temps ancien, quand les Chinois passent la frontière de Chine à l'extérieur, ils subissent une fouille minutieuse pour voir si, enfin, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti de Chine avec le cocon ou avec le secret.
La tradition de la fabrication du textile est extrêmement ancienne, Étienne de la Vessière, mais la Chine va réussir à faire de la soie un avantage commercial stratégique.
Tout à fait. C'est jusqu'au IIIe siècle de notre ère, elle a véritablement le monopole. Et il semble que ce monopole soit brisé à la fin du IIIe siècle, et que la soie arrive de manière autonome en Asie centrale, avec effectivement, on a des représentations picturales et textuelles de ces fouilles dont l'extrait vient de parler. On voit une princesse qui vient de Chine et donc qui a caché les œufs dans sa chevelure. Et je pense à une image tout à fait particulière où une servante montre la chevelure de la princesse tandis qu'à côté est représenté le dieu de la soie, ce qui montre bien ce qu'il y avait dans les cheveux.
Et à partir du 3e siècle, dites-vous, il va y avoir de la soie qui sera fabriquée hors de Chine, Sophie Richefort-Guilloué.
Oui, on va commencer à avoir des premières de la sériculture au sens propre. La peinture dont vous parliez est intéressante aussi parce que on nous dit que cette princesse peut-être avait été donnée en mariage et que c'est pour apporter une sorte de dot supplémentaire qu'elle avait trahi ce secret. Mais les différentes représentations, effectivement, montrent presque une volonté d'espionnage industriel très rapidement, de chercher à avoir des contacts directs avec les Chinois en essayant de passer outre tous ces empires ou ces royaumes qui, eux, veulent garder au minimum le monopole du transport de la soie à travers leur territoire, notamment les Parthes.
Et alors comment justement les Romains découvrent-ils la soie en quelques temps avant le début de notre ère, Sophie Richefort-Guilloué?
Alors en fait, c'est une terrible défaite. C'est la défaite de Crassus à Carrhée, enfin, donc face à Suréna, général des Parthes.
Au niveau de l'actuel Iran.
Voilà, et non seulement c'est une défaite, mais les aigles sont perdus, donc c'est quelque chose d'épouvantable dans la mentalité romaine. Mais ils vont garder aussi le souvenir de bannières particulièrement chatoyantes que les Parthes avaient déployées pendant cette bataille. Et petit à petit, donc, cette soie va arriver. On va, comme on l'entendait tout à l'heure dans l'extrait que vous avez passé, on va penser qu'il suffit de peigner les feuilles du mûrier. On sait que c'est déjà le mûrier, mais il y a une erreur sur l'utilisation qu'on en fait. On récupère par coction un duvet, pourrait-on dire, que l'on va ensuite filer. Il va falloir très longtemps pour que l'association avec le ver à soie, hein, dont on nous dit à l'origine que c'est une impératrice, la femme de Wang Di, qui avait fait tomber dans sa tasse de thé chaud un cocon de ver à soie en dessous du mûrier sous lequel ils étaient assis, qu'à ce moment-là, le cocon s'est dévidé et qu'on a pu récupérer ce fil arachnéen qui est à l'origine de la sériculture.
Et chez les Romains, c'est un tissu qui suscite à la fois de la fascination, mais aussi de la méfiance, Étienne de la Vessière.
Oui, tout à fait. On a des textes de censeurs romains s'opposant à ce que les femmes portent de tels tissus qui dévoilent les formes et s'indignant des montants extraordinaires dépensés par Rome dans ce commerce oriental, que ce soit d'ailleurs la soie ou que ce soit les parfums d'Arabie.
Et ça creuse le déficit commercial.
Complètement.
Et alors, peut-être que ce sont moins les rapprochements diplomatiques que commerciaux qui vont se révéler fructueux au fur et à mesure des siècles. C'est les voies maritimes qui se développent alors, et notamment la mer Rouge, Sophie Richefort-Guilloué.
Oui, parce qu'à partir de l'époque hellénistique, il va y avoir un port, donc de Bérénice, enfin, qui va permettre, grâce à la découverte du fameux vent d'Hippal, de pouvoir gagner la côte de l'Inde.
Le vent d'Hippal.
Voilà, le vent d'Hippal. Et ensuite, pouvant faire cette espèce de circumnavigation de l'Inde, on a par exemple des fouilles qui révèlent des installations romaines de marchands, mais aussi par exemple de tailleurs de pierre qui renvoyaient ensuite tous ces biens. On a aussi un site dans l'actuel delta du Mékong, où on sait que les Romains s'étaient installés. On sait peu de leur arrivée en Chine, on sait dans les annales, les chroniques chinoises, qu'un personnage qu'on appelle Andun est arrivé en 166, ce qui correspond aux Antonins, sous Marc Aurèle. On ne sait pas s'il est venu avec une sorte de mission impériale ou si c'est simplement un marchand qui s'est prévalu de l'autorité de l'empereur régnant sous la dynastie des Antonins.
Mais c'est le premier contact diplomatique.
Il est arrivé à la cour et on a une référence écrite, puisque comme les Romains, les Chinois notaient après année tout ce qui survenait à l'intérieur et dans les relations avec l'extérieur.
Nous sommes alors au 3e siècle, c'est une période de repli sur soi pour la Chine, le commerce de la soie va reculer. Quels sont les troubles qui agitent alors l'Empire, Étienne de la Vessière?
À partir du 3e et au 4e siècle, la Chine du Nord, grande zone de production de soie est la Chine du Nord-Est. Et ces régions sont immédiatement frontalières des zones de steppe. Et l'Empire chinois s'effondre à partir du 3e, 4e, 5e siècle, pendant plusieurs siècles, face à des puissances venues de la steppe qui vont reconfigurer le pays en royautés rivales, etc., mais qui vont aussi beaucoup détruire. Et notamment, la Chine perd son premier empire colonial en Asie centrale. Et donc toute cette soie diplomatique, militaire, administrative n'est plus envoyée en Asie centrale, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'armée chinoise là. D'où un grand recul et, en réponse à cet effondrement, un développement des lignes commerciales centra-asiatiques qui, du coup, vont être conduites à aller chercher la soie en Chine, à la source.
Et c'est à cette période qu'apparaissent de nouveaux marchands, les Sogdiens. Alors, qui sont-ils et d'où viennent-ils, Étienne de la Vessière, vous qui avez beaucoup travaillé sur ce peuple?
Ce sont les marchands de Samarcande, de Boukhara, de Tashkent.
Et donc, dans l'actuel Ouzbékistan.
Voilà, et Tadjikistan. Ce sont des gens qui parlent une langue iranienne, cousine de l'ancêtre du persan actuel. Et à partir du 5e siècle, on va les voir rayonner dans toute l'Asie. Du 5e au 8e siècle, on peut dire que la route de la soie terrestre, c'est la route des marchands sogdiens. On a des marchands sogdiens attestés à Constantinople, comme à Chang'an, à Xi'an, la capitale chinoise, en Inde, comme en Sibérie, etc. On trouve des tissus inscrits ou des objets inscrits en sogdien dans toute l'Eurasie. C'est absolument extraordinaire.
C'est eux qui développent véritablement le réseau caravanier et c'est en train d'un recul du commerce maritime à cette époque-là.
Alors, mon analyse est que le commerce maritime a ses propres oscillations et que ce commerce maritime va croître globalement de la période romaine jusqu'au 8e, 9e siècle, date à laquelle il va remplacer le commerce terrestre. Pour des raisons tout simplement de capacité. Un chameau, c'est 150 kilos. Un bateau romain entre Bérénice et Mudjiris, par exemple, la côte indienne, c'est 300 tonnes.
Oui, on voit bien effectivement comment les bateaux vont pouvoir remplacer peu à peu la route. Mais alors la route qui passait par l'Empire couchant, donc l'actuel Afghanistan et Pakistan, va être marginalisée au profit d'une autre route avec les Sogdiens. C'est ce qu'expliquait l'archéologue Franz Grenet au micro de Jean-Noël Jeannonet.
Cette route du Sud est éclipsée peu à peu et à partir du 2e, 3e siècle par une route plus septentrionale que viennent à contrôler les marchands de Samarcande. C'est le moment où Samarcande s'impose comme un nœud essentiel des voies transcontinentales. Samarcande est une ville ancienne, elle remonte à l'époque de l'Empire perse, Alexandre l'a conquise, elle est connue par les historiens d'Alexandre sous le nom de Marakanda, mais on voit très bien que la Samarcande antique est avant tout une base militaire, c'est un poste défensif face au monde de la steppe. Et à partir du 2e, 3e siècle, ça change.
Avec les Sogdiens, Étienne de la Vessière, la ville de Samarcande va devenir un nœud essentiel du commerce.
Tout à fait. Samarcande est exactement à mi-chemin entre Constantinople et la Chine. Il y a 4000 km de route de chaque côté. Il faut prendre conscience des distances. C'est absolument gigantesque. Et le commerce terrestre va remonter vers le nord. Au lieu de passer par la Bactriane, c'est-à-dire l'Afghanistan actuel, il va passer un peu plus au nord, par l'Ouzbékistan actuel, Samarcande, et va utiliser notamment la bande de steppe qui s'étend de la mer Noire à la frontière nord de la Chine par une coopération généralisée avec les élites nomades.
Une route qui va remplacer celle qui passait par l'Empire couchant, et en même temps les Sogdiens ont beaucoup appris des couchants, leur doivent beaucoup, Étienne de la Vessière.
On le voit par le vocabulaire notamment, puisqu'une bonne partie du vocabulaire spécifique des caravaniers sogdiens vient en fait du bactrien, et au-delà du bactrien vient des langues indiennes.
Et alors les Sogdiens vont connaître leur apogée au 6e siècle et ils se placent alors sous la protection des empires turcs. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là, Étienne de la Vessière? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cette protection? En quoi ça va les aider à développer encore le commerce?
On a un texte absolument extraordinaire chez un historien byzantin, dans lequel on voit un chef des marchands sogdiens qui va voir le roi des Turcs et qui lui explique « Écoutez, vous touchez des centaines de milliers de rouleaux de soie de la Chine, mais vous ne pouvez pas tous les utiliser. Or, à Byzance, dans l'Empire romain, il y a le plus gros marché mondial de la soie. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre une partie de ces rouleaux de soie versés par les Chinois et de les envoyer à Constantinople. » Donc on voit là, il y a déjà une vision mondiale. Ce marchand sogdien est capable, à l'échelle de l'Eurasie, de voir les grands équilibres, de voir quels sont les marchés demandeurs et comment organiser les choses. Et donc les caravanes sogdiennes, à partir de ce moment-là, à partir du 6e siècle, sont en fait protégées, guidées et payent les soldats turcs et on entre dans le cadre d'une symbiose entre sédentaires, c'est-à-dire sogdiens, et nomades, c'est-à-dire turcs, un partage du pouvoir entre commerce et politique.
Les sogdiens vont jouer un rôle d'intermédiaire qui va être essentiel, Sophie Rochefort-Guinouet.
Oui, effectivement, ils vont, pendant le temps que va durer la grande splendeur de Samarcande, avant Tamerlan, enfin avant Timur, qui va changer un petit peu cela, pas forcément tant d'un point de vue commercial, mais d'un point de vue de la cité elle-même, puisque les élites sogdianes vont souvent quitter la ville et aller s'installer un petit peu à l'extérieur. On a des fresques murales extraordinaires aussi, Pendjit Kent par exemple.
Mais pendant ce temps-là, voilà, ce sont vraiment les maîtres de la route de la soie.
De la route de la soie. Ce qui était très intéressant à propos de ce texte, c'est que l'idée d'un commerce, on la trouve de façon très ancienne aussi, quand on prend l'exemple, là pour le coup, des gens qui se sont installés dans la vallée du Gandhara. Donc on est après la conquête par Alexandre qui arrive jusqu'à l'Indus et toutes les Alexandries. On a une stèle étudiée d'ailleurs par Franz Grenet, qui est la stèle de Sophitos, où on a un personnage qui, dans un grec parfait, il y a juste une erreur de métrique, mais vraiment c'est remarquable, explique que sa fortune ayant été détruite, il est parti avec de l'argent qu'il avait l'intention de faire fructifier pour le Nord, et qu'après, donc des années de commerce avec la Chine, il est revenu dans sa ville, donc, et il a pu relever non seulement sa maison, mais les tombeaux de ses ancêtres. Et ce que l'on pense aussi, c'est que ce Sophitos, qui est le fils de Naratos, il y a un acrostiche au début du poème, se sont peut-être, malgré tout, dans ces royaumes qui sont indo-grecs, en fait, et bouddhistes, ce sont probablement des Indiens hellénisés.
Donc les Sogdiens vont développer ce commerce, mais c'est aussi une période où la Chine connaît une période de prospérité importante, en particulier sous la dynastie Tang au 8e siècle, Étienne de la Vessière.
Tout à fait, c'est vraiment l'apogée, je pense, de ce qu'on peut strictement nommer la route de la soie terrestre. C'est le moment où, après cette période de destruction en Chine du Nord que nous avons mentionné tout à l'heure, on voit de nouveau, à partir de la fin du 6e siècle, une Chine qui est conquérante, qui va s'avancer jusqu'à la Kirghizie actuelle et même jusqu'à l'Inde du Nord actuelle. Il y a des raids chinois qui débouchent dans la plaine indienne et qui doit donc entretenir une armée coloniale gigantesque et va donc envoyer ses millions de rouleaux de soie vers l'ouest. Et à Samarcande, le relais est pris par des réseaux commerciaux. Donc la route de la soie, c'est un peu toujours cela, c'est-à-dire c'est une intégration entre un élément étatique et un élément commercial.
Les routes commerciales par lesquelles voyagent également les connaissances. Je vous propose d'écouter l'anthropologue Philippe Cornu sur France Culture dans Les Chemins de la Connaissance le 6 décembre 2004.
Il y a eu des grands foyers à l'ouest de l'Inde, le Gandhara, l'actuel
Pakistan
et Afghanistan. Mais le Cachemire aussi, oui, qui étaient des régions extrêmement importantes pour le bouddhisme. Il y avait des écoles très florissantes à ces endroits-là, beaucoup de monastères. Et c'était un départ tout naturel, en fait, aussi des caravanes vers la Chine. Par conséquent, les voies commerciales, c'est bien connu, sont des voies aussi de connaissance. C'est-à-dire que, bien sûr, les moines ont suivi les caravanes et il y a eu énormément d'échanges sur la voie de la route de la soie. Y compris avec le monde grec, y compris avec les mondes du Moyen-Orient. Mais surtout, bien sûr, les moines ont amené les premiers textes en Chine. Et ce sont souvent des autochtones de la route de la soie qui connaissaient plusieurs langues, qui ont été les traducteurs en Chine. C'était pas forcément des Chinois qui traduisaient en chinois. C'était des gens qui vivaient dans ces oasis.
C'est tout un bagage culturel et religieux qui transite sur ces routes, Sophie Rochefort-Guilouet.
Oui, on vient de parler du bouddhisme. Il y a deux grandes figures. Il y a Fa Xian, l'un des premiers moines, vers 399. En 629, un petit peu après, on a Zhuang Zhang, qui vont partir pendant, pour l'un, 15 ans, l'autre 25 ans, traverser le désert de Gobi, visiter les fameux royaumes bouddhistes du bassin du Tarim, donc le Taklamakan. Aller jusqu'en Inde, visiter les quatre grands endroits où le Bouddha est né, a connu l'illumination, a enseigné et est mort, et revenir avec des dizaines de rouleaux qu'ils vont ensuite passer le reste de leur vie à traduire en chinois pour être au plus proche des sources de la religion qui petit à petit a conquis ces royaumes qu'on va finir par appeler les royaumes bouddhistes.
Et ils introduisent aussi en Chine d'autres religions venues de l'Ouest, le manichéisme, le christianisme.
Le manichéisme, le zoroastre évidemment, et puis très très vite on va se retrouver avec des gens qui viennent de l'Ouest parce qu'ils n'y sont plus les bienvenus, comme les chrétiens nestoriens, qui vont venir jusqu'à Xi'an et qui vont s'y installer. On va avoir aussi, allant jusqu'en Chine, des communautés juives. À Kaifeng, il y a une tradition très, très importante, encore de nos jours. Et puis, ensuite, on verra bien sûr l'islam remonter le long de cette route de la soie. On a des textes sur la prise de Khotan où on nous explique qu'ils ont débarqué comme une inondation. Ils ont détruit les temples des infidèles et se sont assis sur les têtes de leur Bouddha.
Et alors de ces influences sogdiennes, turques et chinoises, va naître une culture mixte, celle des U, une culture dans la cour chinoise, va s'enticher, Étienne de la Vessière.
Oui, c'est d'ailleurs très intéressant parce que justement ça a lieu en Chine intérieure, c'est-à-dire en Chine, dans les capitales, les élites vont adopter des modes occidentales, vont jouer au polo, par exemple, qui est un jeu iranien, vont manger de la cuisine occidentale, vont s'habiller de tissus qui ont été rebrodés en Iran ou en Inde. Mais on constate, en revanche, en Asie centrale, dans les parties dominées par l'armée chinoise, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de repli culturel sur l'identité chinoise et un refus de se mélanger. Vous voyez, les élites à Chang'an, à Xi'an, etc., ont le luxe de pouvoir se permettre de s'occidentaliser, tandis que dans l'armée, on a une sorte de sévérité et de défense de l'identité chinoise en contexte colonial.
Mais c'est à la fois une occidentalisation et un mélange de cultures en réalité, avec des influences très très diverses.
Tout à fait. On le voit par exemple sur les grandes tombes du 6e siècle de ces élites, du 6e, 7e siècle, où on voit des motifs qui parfois sont pris à l'Inde, parfois sont pris à l'Iran, et dans un contexte funéraire global, qui est un contexte funéraire chinois, la forme des tombes est chinoise, etc. Mais une bonne partie des motifs sont effectivement empruntés.
Et il serait faux de croire évidemment que seule la soie a transité par ces différentes routes. Quelles sont les autres marchandises, mais aussi les autres techniques qui sont alors échangées, Sophie Rochefort-Guillouet?
Alors, on dit souvent que les quatre grandes inventions de la Chine ont suivi le rythme de progression de la route de la soie, donc le papier, l'imprimerie, la poudre à canon, et puis l'astrolabe, enfin ce qui permettait donc de se diriger. Mais on sait aussi que les caravanes, au fur et à mesure qu'elles avançaient vers l'ouest, pouvaient aussi se charger de biens qui étaient produits dans ces villes. Par exemple, s'il passait par Khotan, donc il y avait de la néphrite, du jade, extrêmement connu. Donc il y avait un marché local et ça pouvait aller plus loin. Il va y avoir assez rapidement donc des porcelaines, le jade, mais aussi des médicaments, des épices, des histoires qui vont suivre cette route de la soie. Il y a des histoires extraordinaires de fantômes chinois que l'on retrouve par exemple dans les Mille et une nuits. Et très très vite, tout cela va se constituer en un corpus, à chaque étape autour du feu, sans doute quelqu'un qui rajoute un élément dans l'histoire, jusqu'à ce que ces corpus donnent un jour naissance à ce qui va être les Mille et une nuits.
Et dans ces échanges, là encore, les Sogdiens jouent un rôle central, Étienne de la Vessière.
Oui, parce qu'ils sont véritablement totalement dominants, à tel point que on ne sait pas s'ils sont dominants parce que effectivement tous les marchands caravaniers sont de familles sogdiennes, ce qui serait étonnant quand même, ou s'il s'agit plutôt d'une culture caravanière et dans lequel leur langue sert de lingua franca, de langue d'échange sur l'ensemble de l'Eurasie. On a des textes précis racontant comment à la cour de Constantinople on traduit des lettres en sogdien. De Sogdien en grec. De même, on a des conservés, enfin non, on ne les a pas conservés, on a conservé les titres uniquement, hélas, on a conservé les titres de dictionnaires sogdiens chinois, utilisés par les traducteurs de la cour.
Mais cette domination des Sogdiens va reculer à partir du 8e siècle, les Sogdiens vont souffrir des troubles qui traversent la Chine des Tang, Étienne de la Vessière.
Il y a un double effondrement. La Chine des Tang, d'une part, s'effondre pour des raisons de rébellion interne, une partie de son armée se rebelle. Et jamais la dynastie des Tang ne va réussir à reconquérir véritablement le pays. Et toute l'économie de la Chine va muter. Au lieu d'être une Chine centrée sur les villes du Nord, sur la soie, etc., c'est une économie qui va se déplacer vers les villes du Sud, les villes portuaires, d'où l'essor du grand commerce maritime à ce moment-là. Simultanément, en Asie centrale, c'est la conquête musulmane qui se passe très mal en Asie centrale, alors que l'Iran avait été traversé d'une certaine manière sans beaucoup de dommages. Les l'Asie centrale est divisée en tellement de petites principautés que les armées arabes ont beaucoup de mal à soumettre le pays, et donc la conquête est d'autant plus destructrice. Et la simultanéité des deux processus fait que la route de la soie ne va pas s'en remettre avant l'époque mongole. La route de la soie terrestre ne va pas s'en remettre avant l'époque mongole.
Et bien justement, dans un instant, on va parler de ces nouveaux acteurs que sont les Mongols. On en parle tout de suite.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Silk Road Journey du collectif Arifa, notre expédition sur les routes de la soie, se poursuit en compagnie de Sophie Rochefort-Guilouet et Étienne de la Vessière. Alors on a vu qu'après l'âge d'or, des marchands sogdiens s'ouvrent une période de ralentissement du commerce à partir du 8e siècle de notre ère. On peut dire que la Chine se ferme alors au reste du monde, Sophie Rochefort-Guilouet ?
Oui, il y a un repli effectif. Que l'on va d'ailleurs retrouver à certains moments de son histoire par la suite, notamment après les grandes expéditions de l'amiral Zhang Rei ou au moment du 19e siècle avec l'idée que la Chine peut vivre en autarcie, n'a besoin de rien.
C'est ça, elle le fait aussi parce qu'elle peut, elle a une population qui fournit une clientèle intérieure.
Voilà, et puis on n'a pas forcément besoin de ce qu'envoient les barbares. Et le terme de barbare recouvre tous ceux qui n'appartiennent pas à cette culture chinoise. Et donc pendant des décennies, pendant que se constitue ce vaste empire que s'organise la domination mongole, la Chine s'étant affaiblie, elle va tomber très très relativement facilement sous les coups de Gengis Khan.
Alors avant d'en venir à Gengis Khan, on peut dire, Étienne de la Vessière, qu'entre le 8e et le 11e siècle, on ne peut pas vraiment parler de route de la soie. Vous dites qu'elle est réduite à de petits sentiers.
On le voit très bien par exemple, au 10e siècle, en Asie centrale occidentale, à Samarcande, à Boukhara, etc., on frappe par millions des pièces d'argent de très 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 bonne qualité. Ces pièces d'argent vont être exportées par les marchands d'Asie centrale vers le nord, vers la Russie, vers l'Ukraine. On en trouvera jusqu'en Islande, on en trouve sur les marchés d'Allemagne. Ce sont des millions de pièces. Il n'y en a pas une seule qui a été retrouvée en Chine.
Donc on voit les contacts sont absolument coupés.
On voit que la route de Est-Ouest est devenue Nord-Sud. C'est vraiment très très frappant. Et tout est valable. La porcelaine, par exemple. On trouve des millions de fragments de porcelaine dans tous les ports du monde musulman. Trois tessons à Samarcande. sachant que la porcelaine est quelque chose qui arrive à partir du 9e siècle. Avant, il y a des grès, etc., mais la porcelaine, c'est vraiment le 9e siècle. Trois tessons à Samarcande. Donc, il y a eu un bouleversement total, tout simplement, parce que la route a été découpée en plein de petits royaumes et plein de petits empires qui se mettent à lutter les uns contre les autres, tandis que l'économie chinoise s'est rapprochée des côtes, s'est allée vers le sud et donc très très loin de l'Asie centrale.
Mais tout va changer avec la montée en puissance des Mongols. Écoutons un extrait du film Gengis Khan d'Henry Levin avec Omar Sharif, film sorti en 1965.
Notre monde est comme trois grands cercles. Ici, à l'ouest, Samarcande et Bokhara, la terre des Persans.
Et ici, à l'est ?
Je ne suis pas allé à l'est de ces montagnes, mais j'ai conversé avec des marchands venus par caravane. Et tous m'ont parlé de la Grande Muraille. Une muraille qu'ont bâti les Chinois pour défendre leur empire.
Et là, qu'y a-t-il dans le centre ?
Une terre vide. Un pays désolé où seuls les Mongols vivent.
Pourquoi le pays mongol est-il vide alors qu'il est au centre des parties riches de l'Ouest et de l'Est chinois ?
Parce que les tribus mongoles, les Merkites, les Salkites, les Tangoutes, les autres sont trop occupés à se combattre.
Mais si elles réussissaient à s'unir ?
Les Mongols ne peuvent s'unir que dans la mort.
Et pourtant, les Mongols vont bel et bien réussir à s'unir sous la domination de Gengis Khan, Étienne de la Vessière.
Oui, tout à fait. On discute beaucoup de savoir si Gengis Khan est en fait ne vient que dans un deuxième temps, dans un processus d'unification des tribus qui lui seraient antérieures, ou s'il est effectivement celui qui réalise l'unification. En tout cas, il est certain qu'il est celui qui va conduire les armées mongoles en dehors de la Mongolie avec la conquête donc de l'Asie centrale, du nord de la Chine, etc.
Donc vous êtes plutôt partisane, Sophie Rochefort-Guilouet, de la thèse selon laquelle l'unification était antérieure à Gengis Khan, ou c'est lui qui l'aurait réalisé ?
Plutôt lui qui l'aurait réalisé, mais c'est vrai qu'on a une image donc de ce Temujin qui devient le Khan et qui est sans doute aussi culturel parce que c'est la grande figure dominante, celle qui à travers un Kuriltai arrive à faire l'union de toutes ces tribus différentes qui se sont beaucoup combattues, qui procédaient à des raids, à des enlèvements. Enfin, c'était très difficile effectivement d'avoir une politique commune. Et puis la suite, les différentes fragmentations en hordes, bon, puisqu'on va, ça va jusqu'en Russie, jusqu'aux principautés de l'époque de Kiev, qu'on va avoir différentes capitales, Sarai, Karakorum, avec des tributaires qui viennent. Mais on va aussi avoir, dans le même temps, grâce à cette conquête, qu'elle soit initiée plus tôt, ou le résultat d'une sorte de génie de ce personnage historique, on va avoir une période de stabilité, dans laquelle, à nouveau, on va pouvoir circuler avec des sauf-conduits que l'on va vous donner, là, les paisai. Marco Polo en avait, paraît-il, une en or, et ça lui permettait, comme à d'autres marchands, d'obtenir aide et assistance en tant que de besoin, et surtout qu'on contrôle vraiment ceux qui circulaient sur cette route de la soie entre la Chine et l'Occident.
Et c'est une stabilité qui va véritablement réveiller le commerce terrestre à partir du XIIIe siècle, Sophie Rochefort.
Alors on voit les frères Polo qui partent, donc Maffeo et Niccolo, ils savent très bien où ils vont au départ, puisqu'ils vont rendre visite au frère aîné qui a un comptoir de pierres précieuses sur la mer Noire. Donc déjà, c'est un commerce assez étendu. Et puis, ils vont continuer, ils vont rencontrer des émissaires du Grand Khan qui a cette curiosité à l'égard de ce qu'il appelle les Romains ou les Latins et qui va demander aux deux frères de les accompagner jusqu'à Cambalik, jusqu'à la cour de Kubilai Khan, qui va avoir des demandes assez étonnantes. On verra lesquelles tout à l'heure.
On va revenir effectivement sur les relations entre Marco Polo et Kubilai Khan. Mais d'abord, Étienne de la Vessière, quelle est la place que tiennent les marchands à la cour mongole ? Est-ce qu'ils ont un rôle spécifique ?
Les marchands à la cour mongole sont les héritiers d'une très ancienne pratique dont j'aimerais pouvoir montrer qu'elle remonte au Xiongnu, c'est-à-dire aux alentours de notre ère, voire avant notre ère, mais donc que l'on peut suivre en fait à partir des marchands sogdiens. C'est-à-dire le texte que je vous ai cité tout à l'heure sur la coopération entre élite turque et marchands sogdiens, on la revoit ensuite dans toute l'histoire de la steppe. C'est-à-dire c'est la relation qu'on dit ortak, c'est-à-dire les marchands servent d'intermédiaires financiers pour les princes. Et les Mongols, comme avant eux, les Turcs, reçoivent des tributs énormes, des quantités d'argent dont on a absolument, pour lesquels on n'a aucun parallèle dans l'histoire de l'Asie. Et ils ont donc des surplus qu'il va falloir tenter de démultiplier, de faire, de s'enrichir par cette manière-là. Et les marchands proposent donc d'utiliser ce surplus pour faire du commerce dans l'ensemble. Donc c'est le phénomène par lequel le tribut devient un capital.
Et c'est ce qui va permettre véritablement de relancer ce commerce terrestre qui s'était endormi pendant plusieurs siècles. Et peut-être qu'il faut préciser que les grandes conquêtes mongoles ont lieu donc dans la première moitié du XIIIe siècle. Et Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan, va devenir empereur de Chine et fonder en 1271 la première dynastie d'origine étrangère, la dynastie Yuan. C'est une période particulière, c'est la première fois en Chine que c'est une dynastie, que c'est une population étrangère qui fonde une dynastie.
Non, c'est pas la première fois, mais c'est sans doute la plus marquante avant la dernière des dynasties, donc les Qing, qui eux sont donc des Mandchous. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que à la cour de Genghis Khan, on va avoir une sorte de monde cosmopolite. Il va s'appuyer sur des marchands, il va envoyer Marco Polo mener un certain nombre d'inspections, emmener une princesse pour épouser un prince perse, parce qu'il a besoin aussi d'avoir autour de lui des gens à qui il peut faire confiance. Et donc on va avoir cette période extrêmement florissante à Cambalik, qui est celle des Polo et de leur neveu quand il revient ensuite, avec un intérêt pour l'Occident qui ne se dément pas, puisqu'on nous dit, on voit ça dans l'illustration du maître de Boussicault, qu'il va demander à ce qu'on lui envoie une ampoule de l'huile du Saint-Sépulcre, mais surtout des lettrés chrétiens pour l'instruire dans cette religion des gens qui viennent de si loin.
Vous parlez d'huile sainte, je voudrais justement vous faire entendre un extrait de la série Netflix consacrée à Marco Polo. Dans cet extrait, l'explorateur, accompagné de deux acolytes, vient d'arriver à la cour du Grand Khan.
Les latins, je me souviens de vous. Où sont les prêtres chrétiens que vous étiez censés emmener?
Souverain Kubilai, veuillez accepter nos excuses. Nos prêtres n'ont pu supporter le voyage éprouvant. Mais nous vous avons rapporté de l'huile sainte.
Vos hommes de Dieu ont abdiqué. Ce garçon a persévéré. Ce n'est pas à l'honneur de votre sauveur.
C'est la loyauté d'un fils mortel envers son père mortel, Grand Khan.
De l'huile sainte du pontife qui désire répandre le christianisme sur mes terres. N'est-ce pas ce même pape qui m'a appelé le fils de Satan ? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le christianisme est le bienvenu dans mon royaume. Tout comme le bouddhisme, le judaïsme, l'islam. Et l'éternel ciel bleu de mon grand-père, Genghis Khan, descendant d'un loup.
Voilà le règne de Kubilai qui a été marqué, Sophie Rochefort-Guilloué, par une grande ouverture à l'égard des religions et des cultures étrangères.
Alors les Mongols, au départ avec des pratiques de chamans, ont toujours été très tolérants envers les populations devenues tributaires. On le voit par exemple quand ils arrivent chez les Rousses. Ils n'ont pas s'installer, ils vont simplement demander un tribut. Ils vont demander aussi à ce que les chefs de ces villes viennent se rendre à Karakorum et fasse l'hommage donc de leur soumission. Mais par contre, ils ne vont jamais chercher à convertir qui que ce soit. Et l'exemple de Kubilai Khan et de son intérêt est fascinant parce que c'est peut-être quelque part une occasion manquée. Lorsque Maffeo et Niccolo rentrent, il y a une vacance du pouvoir papal et ils ne vont pas pouvoir repartir avec la centaine de lettrés qu'on avait demandé, partir avec deux qui, devant les troubles qui règnent en Arménie à l'époque et avec l'Asie Mineure en général, vont décider de faire demi-tour. Et c'est donc une promesse qui ne sera jamais remplie.
Cette ouverture des Mongols aux arts, il va y avoir aussi le théâtre, la peinture qui vont connaître un nouvel âge d'or pendant cette période mongole, est loin de l'image qu'on peut avoir des Mongols comme des barbares. On a ici un empereur qui cherche à connaître beaucoup de tout ce qui peut venir de l'Occident, Étienne de la Vessière.
Oui, mais c'est quand même dans le cadre d'une pensée politique, c'est-à-dire que on a au moins depuis l'époque Xiongnu, en passant par les Turcs, cette idée présente chez les élites nomades qu'ils ont le droit, que le ciel, Dieu, leur donne le droit de contrôler la terre entière.
Donc, et pour contrôler, il faut connaître.
Pour contrôler, il faut connaître. Donc, on demande au pape d'envoyer des reliques saintes, on lui demande d'envoyer des lettrés, on lui demande éventuellement de venir lui-même.
Ce qu'il ne va évidemment pas faire. Alors, c'est à la fin, en tout cas, du XIIIe siècle que Marco Polo quitte Venise pour voyager dans l'Empire mongol. À la base, c'est un négociant de pierres précieuses et son expédition sur les routes de la soie a finalement d'abord une visée commerciale, même si ce sera après beaucoup plus que ça, Sophie Rochefort-Guillouet.
Oui, parce qu'il va très vite, en arrivant à la cour, devenir une des sources de renseignements sur l'Ouest du grand Khan, qui va lui confier donc un certain nombre de missions. On ne sait pas comment il a été rémunéré. Il est assez silencieux là-dessus. On sait que visiblement, en revenant près de Constantinople, il a été dépouillé d'une partie de ce qu'il avait rapporté, lui, son père et son oncle. Mais il y a aussi une légende qui dit qu'en rentrant chez lui, il a organisé un banquet au terme duquel, comme on ne les avait pas reconnus, comme ils étaient partis depuis trop longtemps, il a ouvert son manteau et des pierres précieuses en seraient tombées. Mais ça fait plus partie de la légende que de l'histoire.
Et c'est ce rôle qui va lui permettre de circuler extrêmement facilement en Chine. Et c'est comme cela qu'il va pouvoir rapporter autant de récits qui vont contribuer à ce mythe, à cette fascination de l'Occident
pour l'Orient. Il sera mandaté au sens propre par l'empereur pour différentes missions qui vont l'emmener dans le sud de la Chine. À chaque fois, il revient, il rend compte de sa mission. On a quelques références, notamment il y a l'assassinat d'un haut personnage dans lequel il va être envoyé pour enquêter, en quelque sorte, que l'on retrouve là pour le coup dans les chroniques. Et puis il y a surtout donc que lorsqu'il cherche à rentrer chez lui, cette possibilité qui lui est donnée à travers ce lien matrimonial que recherche le Khan, qu'il envoie. Et alors là encore, on a une sorte d'occasion manquée puisque le fiancé de la princesse est mort avant qu'il n'arrive. Et c'est donc le successeur qui va épouser cette jeune femme. Ils vont donc rester un certain temps en Perse, plus longtemps que ce qui était prévu.
Et alors les récits que Marco Polo va rapporter de Chine sont réels pour certains, fantasmés pour d'autres, mais ils vont contribuer de toute façon à cette fascination qui perdurera finalement jusqu'à la fin du 19e siècle, Étienne de la Vessière.
Oui, et on peut penser, contrairement à ce que beaucoup d'historiens positivistes au 19e siècle avaient écrit, c'est-à-dire, j'ai dit Marco Polo, écoutez, c'est quand même plein de légendes, d'éléments totalement faux, romancés, etc., etc. Mais en fait, c'est grâce à ces éléments romancés qui fascinaient en Occident que le manuscrit de Marco Polo a été copié, recopié et lorsque les grandes découvertes vont avoir lieu à partir du 15e siècle, ils ont Marco Polo en tête, parce que Marco Polo, ça a marché. Contrairement à d'autres récits beaucoup plus ethnographiques, beaucoup plus précis, comme Guillaume de Rubruck, par exemple, qui est un texte absolument extraordinaire, mais qui n'est connu que, je crois, par un seul manuscrit. Parce qu'il est trop précis et ne fait pas rêver. Marco Polo a fait rêver.
Sophie Rochefort-Guillouet.
Oui, parce qu'on a Rubruck, on a un certain nombre de voyageurs. Il y a Pierre Carpine aussi, qui explique énormément de choses. Il est porteur d'une lettre du pape qui demande aux Mongols d'arrêter les incursions contre les chrétiens. Mais c'est un texte qui ne présente pas des cynocéphales, des êtres avec un visage à la place de la poitrine, les îles Andaman, Nicobar, les pierres précieuses, les dragons, les licornes dans le sud de l'Inde. Et on sait aussi que certains atlas, par la suite, vont être inspirés d'un certain nombre de remarques topographiques. Le planisphère de Fra Mauro, il y aura ensuite l'atlas catalan. Et puis, il y a quand même Christophe Colomb qui a cette idée qu'on arrivera à Cipango, et le premier qui mentionne Cipango et le Tibet, c'est Marco Polo.
Mais alors justement, vous parlez des grandes découvertes du XVIe siècle. Pour un certain nombre d'historiens, l'unification économique du monde remonte finalement plus au XIIIe siècle et aux aventures de Marco Polo qu'aux grandes découvertes du XVIe siècle. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Rochefort-Guillouet?
On a un début d'intégration, parce qu'en fait, quand on a évoqué la route de la soie, quand on la regarde de près, un petit peu aussi en amont, on se rend compte que la connectivité est vraiment la clé. On parlait des pièces qui étaient frappées, qu'on retrouvait en Russie. On trouve ces fameux dirhams au musée de Riga. Et on sait qu'il y avait une connexion avec la route de l'ambre et des fourrures, et que l'ambre fascinait. De la même manière, si on prend la corne de l'Afrique, ou par exemple des gens comme Ibn de Battuta vont aller, ou Djangré, peut-être. On a une connexion qui se fait aussi avec la route de l'encens, qui va devenir quelque chose d'extrêmement important. Et donc, cette espèce d'imbrication enrichit encore tous les éléments qui pouvaient circuler sur cette route qu'on a appelée la route de la soie, mais qui est vraiment un réseau, un maillage très dense.
Et on va pouvoir parler à cette période d'une Pax Mongolica, comme on a parlé d'une Pax Romana, c'est-à-dire cette période de stabilité qui suit les conquêtes militaires, Sophie Rochefort-Guilouet.
On parle de la Pax Mongolica, effectivement, et qui est assez paradoxale parce qu'on a l'image d'un Gengis Khan, une sorte de fléau de dieu d'Attila. Il semblerait que, arrivé au pouvoir, un certain nombre de grands conquérants, le dernier, on a parlé de Tamerlan, vont devenir ensuite de grands, soit bâtisseurs, soit, s'ils gardent une sorte de vie semi-nomadique, vont malgré tout être à l'origine d'échanges économiques.
Mais ces routes mongoles, finalement, ne vont pas durer bien longtemps, Étienne de la Vessière, à peine un demi-siècle. Après, l'essentiel du commerce va retourner à la Syrie et à l'Égypte. Pourquoi cette fin des routes mongoles ?
Parce que cette protection militaire des routes terrestres va disparaître lorsque les différents khanats, les différents empires issus de l'Empire mongol vont commencer à se faire la guerre. Et je pense que de toutes les manières, même à cette époque de renaissance de la route de la soie, la route maritime était restée la plus importante. D'ailleurs, Marco Polo revient par la mer, et on a des traces, on a des textes. Je pense qu'un peu l'absent dans tout cela, c'est le monde musulman. On a des textes musulmans, arabes et persans sur ce commerce maritime avec la Chine, dans lequel on voit des volumes absolument sans aucune commune mesure avec ce que Luc ou Venise ou Gênes peuvent prétendre contrôler en termes de commerce avec la Chine.
Et alors justement, les Ming qui arrivent au pouvoir dans la seconde moitié du XIVe siècle vont chercher à contrôler ce grand commerce maritime, qui liait les ports de Chine du Sud, l'Inde et le monde musulman. Les Ming qui vont finalement se concentrer sur le Nord et rapidement, c'est comme ça que les routes de la soie vont commencer à perdre de leur pertinence, Étienne de la Vessière.
Oui, il y a eu vraiment un basculement dans la politique Ming, c'est-à-dire qu'au départ, ils autorisent les grandes expéditions de Zhang Re, des gigantesques jongs, des flottes de jongs qui vont parcourir tout l'océan Indien, jusqu'en Afrique, jusqu'à Jeddah, le port de la Mecque, etc. Zhang Re est musulman. C'est un musulman au service de la Chine, mais c'est un musulman. Et là, on voit l'intégration. Et de même, inversement, on voit que les pilotes des grands navigateurs du XVe siècle portugais ou espagnols sont souvent des musulmans. Donc il y a un moment où voilà, ce savoir de ce monde musulman qui est au centre de l'ensemble de l'Eurasie va passer d'une part en Chine et d'une part en Europe. Sauf que les Ming mettent un terme à cela, et décide de retourner à la politique traditionnelle chinoise d'affrontement avec les puissances stepiques du Nord, donc un retour à la Chine du Nord, un retour à ce face-à-face, face à la steppe, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette idée aussi que la Chine peut se suffire à elle-même. Mmh. Jamais la Chine, d'ailleurs, n'a pensé la route de la soie comme une source de richesse, la route de la soie terrestre. C'est toujours une source de prestige.
Et donc c'est à partir du XIVe siècle que ces routes vont commencer à tomber en désuétude, Sophie Rochefort-Guilouet.
On le voit par exemple quand on regarde les caravansérails, leurs différents états, ce que traduit le fait qu'ils sont entretenus ou pas, est-ce qu'ils ont été fortifiés, est-ce qu'il y avait un véritable danger, et petit à petit on se rend compte qu'il est beaucoup plus facile d'aller par ces routes maritimes, à un moment où la Chine donc va interdire la construction de bateaux qui permettent de faire du commerce. On peut juste pêcher. Alors c'est pas tout à fait la fermeture, même pas du tout, la fermeture du Japon qui se ferme entièrement à l'Occident, mais on va avoir aussi le contrôle par l'intermédiaire ce qu'on appelle les Kohong, les marchands qui sont bien surveillés par l'État, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vont être en charge des négociations commerciales avec les Occidentaux.
Kohong qui seront en cuite, effectivement, dont le rôle sera ensuite remis en question au XIXe siècle par les Occidentaux. On arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être sur le rôle que les routes de la soie ont joué dans l'émergence, dans l'affirmation de la puissance chinoise. Étienne de la Vessière, vous parlez plus de prestige que d'un rôle économique.
Oui, clairement, dans les discussions, on a des extraits des discussions à la cour de Chine, au moment où la Chine, au 7e siècle, envisage de reconquérir l'Asie centrale, et jamais l'argument économique n'est utilisé. C'est toujours être aussi puissant que les Han l'avaient été. Ça fait partie du prestige, du statut du fils du ciel, de tenir l'Asie centrale. Ce n'est pas directement économique. Au contraire, ces conquêtes leur coûtent de l'argent. Mais ça fait partie du statut impérial.
Et on va voir justement comment ce mythe des routes de la soie est utilisé à nouveau par Xi Jinping dans le cadre des nouvelles routes de la soie. On en parlera jeudi. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi aujourd'hui de revenir sur la décision du gouvernement d'abandonner le facteur 4 en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Absolument, un renoncement d'une rare gravité et dont on a cette semaine trop peu parlé. Difficile en effet de captiver les esprits avec une expression aussi barbare que technocratique. Pourtant, derrière ces termes compliqués de facteur 4 se cache une réalité assez simple. La volonté énoncée par le gouvernement français de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Un objectif qui remonte à 2005 sous la présidence de Jacques Chirac et qui fut confirmé depuis par chacun de ses successeurs, Nicolas Sarkozy en 2009 avec le Grenelle de l'environnement et François Hollande avec la loi de transition énergétique. Le gouvernement s'apprête donc à supprimer un élément central de la politique énergétique et climatique de la France, sans que cela ne semble émouvoir les foules.
Il faut dire que la décision du gouvernement, Arjuna, a été pour le moins discrète.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est ainsi en examinant le projet de loi énergie transmis au Conseil économique et social par l'exécutif que les journalistes de Libération ont repéré que les mots « diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 » avaient été remplacés par « atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 ». Or, ça n'est pas, mais alors pas du tout la même chose. Ainsi, la loi en vigueur fixe clairement un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc de consommation d'énergie. Avec le projet du gouvernement, la logique est tout autre. Il s'agit d'atteindre un équilibre entre la quantité de gaz émis et celle absorbée ou captée. En clair, continuer de consommer, de polluer ou d'expulser ces tonnes de gaz dans l'atmosphère, on trouvera bien des solutions pour les compenser. Parmi ces solutions, on retrouve ainsi des méthodes relativement traditionnelles de compensation du CO2, comme la création et la préservation de forêts, prairies et autres zones humides, mais aussi des procédés techniques, industriels même, de capture et de stockage du carbone.
Des méthodes de captation et de stockage qui sont pourtant loin de faire l'unanimité.
Oui, car ces méthodes sont jugées problématiques tant au niveau technique que politique. Ainsi, des chercheurs pointent les limites et les risques liés à ces technologies qui vont de l'aspiration du CO2 dans l'atmosphère à l'injection de minéraux dans l'océan pour y fixer le carbone et dont on arrive encore mal à prédire les effets potentiellement désastreux sur les écosystèmes. Si les scientifiques s'accordent aujourd'hui sur la nécessité de retirer du CO2 de l'atmosphère pour atteindre cet objectif de limitation des températures à 2 degrés, ils nous mettent toutefois en garde face aux risques politiques, éthiques même présentés par de telles solutions, le danger étant de se reposer intégralement sur le progrès technique pour ne rien changer à nos pratiques. Les solutions technicistes concourent en effet à maintenir l'illusion selon laquelle l'homme peut continuer de consommer, produire et polluer comme il le fait de toute modernité. La science sera toujours là pour le sauver.
Et c'est justement ce qui est critiqué ici avec la décision du gouvernement.
Oui, car en passant du facteur 4 à la neutralité carbone, le gouvernement abandonne l'objectif d'une réduction absolue des émissions pour se livrer à des comptes d'apothicaire et voir si les émissions, quel que soit leur niveau, ont bien été compensées. Or, les scientifiques sont formels, on ne pourra faire face à cette crise sans précédent si l'on ne change pas drastiquement nos modes de vie et de consommation, mais aussi de production. Cette logique de neutralité carbone est donc un signal désastreux envoyé aux consommateurs, aux investisseurs et aux industriels. C'est une manière de dire « ne changez rien, d'autres se chargent de compenser votre action ». Une manière de prôner, toujours et encore, la science et le progrès comme seul remède à nos excès. Une manière de légitimer l'inaction, de promouvoir l'impuissance pour garantir toujours l'économie et la croissance.
se quitte sur Chinatown de Wild Nothing. Merci beaucoup Sophie Rochefort-Guilouet et Étienne de la Vessière de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Notre série consacrée à la Chine continue. Demain, on parlera de la conquête de la modernité. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.